mon fonds, c'est un fonds qui va financer des sociétés en technologie avec un instrument qui est de la dette, qui est donc un peu moins dilutif que les capitaux risques. Donc, les sociétés qui sont jeunes, elles peuvent aussi prendre des prêts. Mais c'est un instrument financier supplémentaire pour cet écosystème de l'innovation qui, en Europe, pour le coup, est très peu utilisé. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, c'était 3,4% en fait, de l'écosystème qui se finançait en utilisant des prêts innovants. Depuis 2016, on a investi 350 millions d'euros avec l'équipe. C'est de prêter à des sociétés dans la techno, innovantes, mais qui n'ont pas d'historique de profitabilité.
Et si votre business pouvait changer le monde ? Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Stéphanie Galanti-Neller, fondatrice et managing partner de Bootstrap Europe. Alors, originaire de Normandie, avec des racines franco-allemandes et guadeloupéennes, Stéphanie a tracé un parcours professionnel assez remarquable dans le secteur bancaire. D'abord à Londres, avant de pivoter vers une carrière plus entrepreneuriale et significative dans le domaine de l'investissement en Suisse. C'est en 2011 que Stéphanie démarre dans ses premiers prêts avec une première entreprise appelée The Real Economy Effect et quelques années plus tard créer Bootstrap Europe. Alors Bootstrap Europe, c'est quoi ? C'est un moyen de financement d'entreprises à risque, alors principalement des entreprises technologiques, à travers de la dette, ce qui offre une alternative beaucoup moins dilutive aux capitaux risques traditionnels. Alors avec Stéphanie, on a parlé de son parcours, de la manière dont les critères ESG sont intégrés dans leur réflexion, de façon hyper intéressante, comment Bootstrap a financé en quelques années seulement déjà 360 millions d'euros, mais aussi de l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le monde de l'investissement pour réellement avoir un impact positif. Alors Stéphanie nous a partagé quelques métriques sur les critères ESG dans les entreprises financées, comme par exemple le fait que 30% d'entre elles mesurent leur empreinte carbone. Alors comme toujours, j'espère que cet épisode vous plaira. Et puis si c'est le cas, dites-le moi et surtout, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Stéphanie, on va être deux Stéphanie aujourd'hui.
Ouais, ça va être pratique.
Ouais. Je suppose qu'on t'appelle Steph.
Oui, ça dépend des gens. Les anglo-saxons, Steph, les français, c'est plutôt Stéphanie.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi, je dis que du Steph. Hein. Enfin bon, voilà, on sera entre Stéphanie et Steph aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast Business Impact. Si tu veux bien, Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, nous dire qui tu es
et que fais-tu? Donc, moi, je suis Stéphanie Galanti-Neller. Je suis la fondatrice et la managing partner d'un fonds qui s'appelle Bootstrap Europe. Alors, toi, tu es belge, mais moi, j'ai grandi en Normandie, dans l'Orne. Et ma mère est franco-allemande et mon père est de Guadeloupe. Donc, voilà. Mon fonds, c'est un fonds qui va financer des sociétés en technologie avec un instrument qui est de la dette, qui est donc un peu moins dilutif que les capitaux risques. On est deux fondatrices avec Fatou Diagne, qui est ma partenaire et cofondatrice dans le fonds, et avec laquelle... En fait, on a monté une équipe et du coup, on aime beaucoup tout ce qui est qui touche à l'impact, à l'ESG. Donc, on a fait pas mal d'investissements dans cette partie du monde.
Ok. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce fonds ? C'est quoi un petit peu ton parcours avant la création de ce fonds ? Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu dis, tiens, je vais créer un fonds ? C'est pas un truc que je pense que les gens font facilement en se réveillant le matin.
Ah oui, c'est à la fois ça paraît simple comme business model, mais il y a des grosses barrières à l'entrée. La plus grosse barrière à l'entrée, c'est de trouver les capitaux à investir, c'est-à-dire de lever l'argent. Et voilà, mais c'est vrai que, alors moi, mon parcours, c'est un parcours qui était assez académique quand j'étais jeune. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait les prépas, j'étais à Louis-le-Grand, et c'est là que j'ai rencontré Fatou, en fait, qui est ensuite avec qui on s'est associé plus tard. Je suis rentrée à HEC, ensuite j'ai travaillé à la Deutsche Bank dans l'équipe de Merger Acquisition à Londres. Et très très vite, ça ne m'a pas plu. Et très très vite, en fait, j'ai été chassée par un family office en Suisse. Et donc j'ai déménagé à Zurich. Et pour eux, en fait, on faisait des investissements directs. Dans des sociétés, dans des fonds aussi. Alors, c'était très souvent dans des sociétés innovatrices. Et en fait, il y a eu l'opportunité avec eux de créer une société de conseil qui s'appelait à l'époque The Real Economy Effect. Et ça, c'était en 2011. Et donc, c'est à ce moment-là qu'avec Fatou, je l'ai appelée, elle était en Afrique du Sud. Et je lui ai demandé, en fait, si elle voulait me rejoindre pour cofonder, en fait, cette société. Et cette société, elle s'appelait The Real Economy Effect, parce qu'en fait, on voulait rediriger plus de capitaux de nos clients à l'époque vers des sociétés qui, potentiellement, pouvaient avoir un impact sur nous tous, en fait, par l'innovation, par la création d'emplois, et donc voilà, donc c'est comme ça que on a commencé à rentrer dans du côté entrepreneurial, donc d'avoir notre propre société. On était jeunes, hein, je sais plus quel âge, peut-être 25, 26, 26 ans, 27 ans peut-être. Et ensuite, en fait, on a eu l'opportunité de monter les fonds Bootstrap. On est tombé en fait sur notre instrument un petit peu par hasard. Et donc moi, mon profil, en fait, c'est un profil qui est à la fois entrepreneurial, à la fois financier, mais toujours avec un attrait pour tout ce qui est technologie, innovation.
Et t'as toujours su qu'un jour t'allais entreprendre ? Tu te voyais entreprendre ou ça t'est un petit peu tombé dessus par hasard ?
En fait, je pense que j'ai grandi avec surtout un père qui était assez indépendant. Je pense que quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, c'était difficile pour moi de me voir dans un rôle au sein d'une chaîne un peu de... j'ai l'impression que j'étais pas faite en fait pour ces grosses structures. Il me fallait une petite structure, il fallait que je connaisse les gens, le nom des gens avec qui je travaille, et donc je pense que c'est venu assez naturellement. Puis j'ai eu de la chance en fait de travailler en Suisse avec des gens qui m'ont donné la chance de pouvoir investir, parce qu'il faut savoir, et tout le monde le sait, mais que très très peu de femmes ont la décision d'investir. C'est-à-dire que très souvent, les femmes, même dans les fonds, elles sont dans des rôles qui sont plutôt opérationnels ou qui vont être de la comptabilité, ils vont être dans les fonctions de support légal, mais c'est rare qu'elles aient la décision sur l'investissement. Et donc c'est rare qu'elle puisse lever en fait de l'argent et ensuite de pouvoir décider. Alors les femmes sont très bonnes à lever de l'argent parce que très souvent dans les fonds, les rôles de levée sont aussi, les gens qui vont lever les fonds sont souvent des femmes aussi, mais c'est pas elles qui vont investir. Donc voilà. Mais moi j'ai eu la chance en fait de travailler avec des gens qui étaient très ouverts d'esprit et qui ont donné la chance, ça fait tout à moi de pouvoir avoir des fonds et ensuite de pouvoir choisir où mettre ces fonds ou les placer.
Alors du coup, je propose qu'on arrive justement sur Bootstrap Europe. Est-ce que pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le concept, tu peux expliquer d'abord peut-être ce que c'est ce mot Bootstrap? Si tu devais l'expliquer à ma mère, par exemple, ou ma fille, je ne sais pas.
Bootstrap, en fait, en anglais, c'est une image, en fait. C'est de prendre, en fait, c'est lasser, de sauter. C'est un peu les cow-boys. Il faut sauter par-dessus C'est l'idée de sauter par-dessus une barrière en prenant en fait vraiment les lacets de ses chaussures. Enfin, en vrai, alors c'est un mot qui est utilisé de deux façons. C'est utilisé par les entrepreneurs pour dire qu'en fait, ils arrivent à financer leur société sans nécessairement prendre des capitaux. Et il y a une autre signification, c'est bootstrap, c'est aussi pour le monde de l'ingénierie, enfin des gens qui écrivent des codes, des logiciels, c'est une loop en fait. Et donc voilà, c'est très tech comme mot. Et l'idée, c'était vraiment de venir apporter des financements alternatifs aux fonds de capitaux risques. En fait, ils sont complémentaires aux fonds de capitaux risques. En Europe. En Europe, il faut savoir que les startups, elles se financent principalement avec les capitaux risques, c'est-à-dire elles prennent des fonds des venture capitalistes qui vont leur donner en fait de l'argent contre des actions. C'est aussi le cas aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, 15% de ces financements viennent aussi de prêts. En fait, donc les sociétés qui sont jeunes, elles peuvent aussi prendre des prêts. Et bien sûr, le prêt, il est un petit peu moins dilutif quand même que les actions pures. En revanche, le prêt, il faut le rembourser sur la longueur. Mais c'est un instrument financier supplémentaire pour cet écosystème de l'innovation qui, en Europe, pour le coup, est très peu utilisé. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, c'était 3,4% en fait de l'écosystème qui se finançait en utilisant des prêts innovants. Et donc, nous, on a vu qu'il y avait un trou dans le marché, qu'il y avait très, très peu d'acteurs, qu'il y avait peut-être 4 000 à 5 000 fonds de venture capital risque, mais qu'il n'y avait qu'une dizaine de sociétés qui étaient des prêteurs en croissance, en dette croissance. Et donc, on s'est dit, ça manque à notre écosystème européen. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, toutes les sociétés aujourd'hui qu'on connaît, de Uber à Google à Facebook, ont pris de la dette croissance. Mais on le sait pas, puisque c'est un métier qui est de toute façon dans l'ombre du capital risqueur. Donc, les fonds de venture capital, les VC, c'est surtout eux dont on entend parler. En revanche, les prêteurs, c'est quelque chose qui est un petit peu derrière, mais qui contribue en fait à l'écosystème, un peu comme de l'huile dans un moteur. Mm-hmm. Et en Europe, on n'en a pas trop accès, parce que c'est mal connu, parce que c'est compliqué à mettre en place sur 12 différentes juridictions. Voilà.
Ok. C'est quoi la différence entre le prêt que tu peux avoir à la banque?
Alors, souvent, les banques, elles vont attendre une historique de 3 ans de profitabilité. En revanche, sur les sociétés technologiques, il est possible de prêter. Alors, c'est une façon de prêter qui est un peu spéciale, qui est extrêmement flexible. On ne peut pas mettre, par exemple, ce qu'on appelle des covenants sur des sociétés dont les business plans soit se réalisent, se réalisent pas. Enfin, c'est très volatile, les sociétés d'innovation. Donc, en fait, c'est des prêteurs différents. Il faut des prêteurs qui sont patients, qui comprennent les difficultés des entrepreneurs. On ne peut pas le faire de manière formulaïque, avec juste une formule en disant, voilà, si vous avez tant de revenus, vous aurez tant de dettes, comme le font les banques. Et en fait, du coup, les banques, elles ne sont pas tellement adaptées, en fait, pour des sociétés qui sont tellement... comment on appelle ça, volatile, flexible, voilà.
Et comment ça s'est fait du coup quand vous avez créé Bootstrap, ça date de quand, Bootstrap Europe?
Alors le premier fonds Bootstrap, quand on a commencé à le monter en fait, c'était en 2014, mais le premier fonds Bootstrap il est 2015-2016.
Ok. Et au niveau, donc tu dis que vous avez été soutenu par rapport au fonds, donc vous avez dû vous lever des fonds.
Oui.
Pour votre fonds.
Exactement.
Avant de pouvoir les réversir. Et donc, c'est le, au niveau de ton ancien employeur en Suisse que vous avez pu trouver ces financements, ou alors est-ce que tu as dû aller ailleurs? Enfin, comment ça s'est passé?
Ouais, alors en fait, si tu veux, à l'époque, nous, on avait... Ça remonte à 2011. 2011, on a fait nos premiers prêts, en fait. Mais les premiers prêts qu'on a fait, on les a fait, en fait, avec nos clients de l'époque de The Real Economy. Et en fait, on avait financé une société... on avait vu, en fait, cet instrument dans une société qui faisait l'intelligence artificielle. Elle était... de l'intelligence artificielle. Ils appliquaient, en fait, les modèles de langage, à des centres d'appel. Et aujourd'hui, AI, ça fait bien, mais bon, tu vois, à l'époque, c'était quand même assez basique. Nous, on avait vu ça et on s'était dit, waouh, c'est intéressant cet instrument. C'est moins risqué, donc c'est plus intéressant pour ce qu'on appelle les family office, donc tu vois, pour les gens avec lesquels nous, on travaillait. Mais tu vois, ils continuent quand même, ils participent quand même si la société, elle a du succès. Donc, est-ce qu'on peut répliquer ça? Donc, on avait fait ça un petit peu de manière un peu sauvage, si tu veux. Et on a eu la chance en même temps de rencontrer Humphrey qui est notre troisième partenaire et qui est un peu le grand-père ou le père plutôt de l'asset class en Europe. Et lui, en fait, à l'époque, il s'était retiré de sa société qui était active de la fin des années 90 jusque dans les années 2010 environ. Et du coup, on a eu l'opportunité d'apprendre ce métier de lui parce que c'est un métier qui est vraiment difficile parce qu'on prête à des sociétés qui n'ont pas de cash flow positif, qui sont cash flow négatif. Du coup, il faut bien apprendre pour ne pas perdre l'argent, il faut bien apprendre à comprendre en fait où trouver les sécurités, comment... investir au sein avec les fonds de venture capitaux, etc., en fonction du cycle. Donc, ça ne s'improvise pas et c'est très difficile à faire. Et quand tu viens, en fait, de l'investissement equity, c'est-à-dire, en fait, quand tu as l'habitude d'être un actionnaire, en général, tu es un mauvais prêteur. Et si tu es un prêteur, en général, tu es un mauvais actionnaire. Et nous, en fait, notre instrument, il est un petit peu hybride, il est un petit peu entre les deux. Et du coup, il faut trouver des gens qui sont complètement schizophrènes. Donc, à l'époque, en fait, comme on avait fait des premiers deals, donc à la suite de cette société dans l'intelligence artificielle, On avait bien marché. On avait fait quelques sociétés comme ça avec Faitout. Et puis, nos investisseurs et nos clients, ils étaient intéressés. Donc, on avait déjà des clients, des gens qui connaissaient notre produit, sur lesquels on avait testé, en fait, la thèse d'investissement. On commençait à avoir une équipe avec Faitout et Humphrey. Et en fait, avec pas mal d'historique, finalement, grâce à Humphrey et puis grâce à nos quelques deals. Et donc, du coup, on a eu l'opportunité de monter un premier fonds. Et le premier fonds, on s'est dit, on va le faire tout petit parce que c'est pas grave. Le but, c'est de l'investir et de montrer qu'on peut l'investir tous les trois en équipe. Parce que c'est ça qui est important pour les investisseurs, c'est cette idée d'équipe. Donc, du coup, on a levé 15 millions et les 15 millions sont venus principalement de mon ancien employeur, mais aussi de clients qu'on avait. Mais qu'on avait rencontré ou qui nous avait rencontré pour être des clients dans The Real Economy à l'époque. Et donc ils nous ont fait confiance avec 15 millions. Les 15 millions, on les a investis. Ça a fait ce qu'on a promis. Donc, du coup, on a levé un deuxième fonds qui, cette fois-ci, faisait 73 millions d'euros. Et qui était soutenu par la British Business Investments en Angleterre. Et moi, j'ai déménagé en Angleterre pour pouvoir monter l'équipe ici parce que les gens schizophrènes, on les trouve principalement à Londres. voilà, mais en fait, c'est dur. Il faut vraiment être dans une... Enfin, c'est dur de trouver les gens qui ont la connaissance de ce métier. Donc voilà, donc on a déménagé. Enfin, moi, j'ai déménagé ici, monté l'équipe. Et puis, ensuite... on a levé un autre fonds qui faisait plutôt de 130 millions d'euros, qui cette fois-ci était soutenu par le FEI, donc le Fonds européen d'investissement, qui avait des investisseurs aussi américains. On a par exemple la Fondation Visa, on a l'Endowment qui est derrière le fondateur qui est décédé, mais de UPS. On a en fait diversifié notre portefeuille d'investisseurs au fur et à mesure qu'on grandissait.
Donc là, si je compte bien, ça passe les 250 millions d'euros à peu près en tout.
Oui, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, comme les prêts nous repayent, donc du coup, tu réinvestis plusieurs fois tes assets. Et donc, du coup, depuis 2016, on a investi 350 millions d'euros avec l'équipe. Et ensuite, on a les gens de notre équipe. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Ils ont un historique d'investissement de plus de 900 millions d'euros, en fait. Donc, en fait, c'est une équipe qui est petite, mais qui est très expérimentée, en fait, à faire une seule chose, c'est de prêter à des sociétés dans la techno, innovantes, mais qui n'ont pas d'historique de profitabilité. Voilà.
Schizophrène, quoi.
Exact.
Mais ça fonctionne. Alors, justement, comment est-ce que vous choisissez les entreprises? Est-ce que vous avez des critères? Alors, tu parles d'innovation, de technologie, mais je voudrais aussi arriver sur tous les critères autres que sont les critères ESG. Comment est-ce que vous les prenez en compte? Enfin, comment est-ce que ça se situe? Comment tu vois la chose, toi, aujourd'hui aussi, de ton œil d'investisseur, investisseuse, je ne sais pas si on dit investisseur, ton œil d'investisseur, sur tous ces sujets qui sont très, très, très actuels, bien entendu?
En fait, depuis le début de notre vie d'investisseur avec Fetch, on était beaucoup plus intéressés à aller vers des sociétés qui, pour nous, allaient construire un futur plus positif. Et donc, ça pouvait aller vers des sujets d'inclusion sociale des sujets qui étaient pour le climat. Donc, en fait, on avait une tendance à vouloir aller vers ces sociétés-là. On l'a formalisé. On s'est dit, voilà, on va regarder les sociétés, on va investir seulement si elles cochent deux critères de UNSDG, sais. Et idéalement, il y en a plus. Et après, ça ne va jamais nous empêcher de faire une société qui n'est pas, enfin, qui va être juste un logiciel, par exemple, mais qui aura du succès. Et voilà, et on va se dire, ben, tiens, c'est une bonne société, elle serait bien dans notre portefeuille, on va aussi investir dans cette société. En revanche, ça a créé un biais dans notre portefeuille vers des sociétés qui sont plutôt axées sur la durabilité ou qui ont un impact. Alors, voilà. Donc, bien sûr, tu vois, pour nous, on pense que par la technologie, Alors, je ne suis pas technopositive, mais que si tu investis dans la technologie, tu essayes de réinventer un futur aussi, tu vois. Donc, il y a un peu un biais comme ça. Mais il faut savoir que 100% des boîtes dans lesquelles on a investi dans notre portefeuille aujourd'hui, elles ont deux UNSDG critères. Elles ont deux critères, deux catégories de UNSDG. Et il y en a 60% qui en ont trois.
Combien de pourcents?
60% qui en ont trois. Et ensuite, notre fonds, c'est un fonds qui est article 8, donc qui regarde ces statistiques du point de vue... alors, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui sont familiers avec, non pas familiers avec cette catégorisation qui est européenne, mais c'est une façon pour l'Europe d'aller pousser, en fait, les investisseurs à regarder, en fait, les sujets durabilité ESG. Donc, voilà. Et donc, nous... on mesure aussi l'impact qu'on a sur les emplois. Et ça vient de deux choses. Ça vient de nos investisseurs. Alors, j'avais nommé l'EIF, donc le fonds, le FEI, mais aussi la Fondation Visa. En fait, ils nous font mesurer notre impact sur l'investissement dans les micro-entreprises et les PME. Et en fait, 100% des sociétés du coup qu'on finance, ce sont des micro-entreprises ou des PME. Et il faut savoir qu'en France, la moitié des emplois, et c'est sûrement vrai pour la Belgique, mais la moitié des emplois, donc 6,5 millions d'emplois en France, le sont par ces structures qui sont des petites structures de moins de 250 employés. Et donc, en fait, juste investir vers des sociétés comme ça, ça a un impact direct, en fait, sur l'emploi des gens, sur ce qui se passe, en fait, sur la structure économique de nos pays. En fait, nous, on a aussi, on pousse les sociétés à traquer, donc ça va t'intéresser, leur statistique ESG. Donc, il y en a 56%.
Justement, je me demandais si est-ce que vous l'imposez ou est-ce que vous questionnez, vous dites ce serait quand même bien que vous puissiez avoir des métriques et auquel cas, lesquelles est-ce que vous demandez du coup?
Alors, c'est dur pour nous d'imposer parce qu'on est non, on n'a pas de droit de vote. Donc, puisqu'on est prêteur, tu vois, on n'est pas au board, on n'est pas au conseil d'administration, tout ça. Donc, ça, c'est plus difficile pour nous d'imposer. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur demander, on va les questionner tous les ans, on va encourager, en fait, ce type de statistiques dès le début, en fait, quand on leur parle aussi. On va avoir envie de comprendre en fait comment eux ils sont structurés, est-ce qu'il y a des femmes qui sont dans le board, etc. Et donc nous aujourd'hui on a 56% des sociétés dans le portefeuille qui aussi mesurent la différence de pay gap entre les femmes et les hommes. Donc tu vois, c'est assez intéressant, c'est pas mal. Hein. Enfin, et on en a 30% aussi qui regardent leur empreinte carbone. Donc tu vois, ça commence en fait. Alors nous on a un biais vers des sociétés qui vont être plutôt positives, mais ça commence à approcher voire à dépasser les 50% de sociétés qui ont un intérêt en fait à regarder, à comprendre comment réduire le gap de salaire ou des choses comme ça. Nous on encourage l'adoption.
C'est hyper intéressant. Et comment est-ce que vous percevez alors justement tout ce que l'Europe met en place aujourd'hui, le traité de Bâle IV qui veut forcément diriger les fonds vers la transition avec un grand T. Comment tu le ressens, tu le vois, comment ça percole chez vous au niveau par rapport à ce niveau européen qui met beaucoup d'ambition finalement à travers l'économie et l'argent qui est mis dans l'économie.
Alors, je pense qu'ils le font de manière stratégique, c'est que en fait, ma conviction personnelle, c'est que ils poussent à la transition parce qu'en fait, c'est la seule façon pour l'Europe d'être libre du point de vue politique et de sa sécurité. En fait, c'est aujourd'hui, il y a une prise de conscience. C'est pas seulement l'agenda pour la planète. Et du coup, ils vont pousser à une indépendance énergétique. Je pense que l'agenda, il est beaucoup plus profond que ce qu'on. Enfin, on aurait tendance à juste vouloir discuter. De manière un peu superficielle, ils font pas ça pour une transition écologique, voilà. Pour moi, ils le font pour c'est géopolitique. Ils font cet effort là dans d'autres domaines aussi, dans les domaines de l'intelligence artificielle et aussi les domaines des semi-conducteurs. Aujourd'hui, nous on a au moins deux sociétés de boîtes en semi-conducteurs où il fallait pas vendre aux Chinois par exemple. Et où les gouvernements interviennent. Donc, tout devient très, très stratégique du point de vue géopolitique et c'est très lié à la technologie. Et donc, c'est important que ces capitaux viennent vers des sociétés qui vont aussi faire des choses qui sont positives pour nous en tant qu'êtres humains. Nous ce qu'on voit et ce que je vois à mon échelle, mais bon, c'est toujours dur de faire des statistiques, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de fonds climate positive, des climate venture capital VC qui sont nés sur les 3-4 dernières années. Donc, il va y avoir plus d'investissements qui vont aller vers des sociétés qui vont essayer de faire une transition énergétique. Et la transition énergétique, ça peut être d'aller réduire aussi le plastique dans les océans. Ça peut être de mieux faire des voitures électriques. Ça peut être de l'hydrogène. Etc. Donc il y a plein de façons d'investir, il y a plein de thèmes en fait qui émergent en ce moment en Europe dans le monde de la technologie. Et nous on voit des sociétés fascinantes, hein, des des sociétés qui vont aller utiliser, par exemple, j'en ai vu une qui utilisait les protéines de petits pois, par exemple, pour faire du plastique, en utilisant les procédés de digestion des araignées. Qui font en fait des fils, les araignées font des fils ultra forts, voilà, qui... donc eux ils font la même chose en utilisant les protéines de petits pois, et en fait ça permet de faire des films plastiques qui sont complètement biodégradables, alors qu'aujourd'hui le plastique, on sait que voilà, le plastique biodégradable, est-ce que c'est vrai, on sait, enfin bon, bref. On voit donc des choses qui émergent comme ça, des cotons qui sont complètement synthétiques. Alors, on parle beaucoup de tout ce qui est synthetic bio dans le monde de l'investissement. Et en fait, ça, c'est la capacité, par exemple, d'aller produire de la viande. Alors, les gens, ils connaissent bien cet exemple, hein, d'aller produire de la viande à partir de le faire, en fait, dans les laboratoires. Donc voilà, et en fait de pouvoir faire de la viande et des protéines dans les laboratoires, mais en fait il y a plein d'autres choses, voilà, de faire par exemple du coton comme ça, de faire, il y a plein de technologies qu'on peut peut-être faire dans les laboratoires et qui du coup vont être non polluantes, mieux contrôlées, et non basées sur les énergies fossiles. Donc voilà, il y a pas mal d'innovations qui se passent maintenant, mais qui sont aussi parfois seulement à l'échelle des universités.
Oui.
Il y a plus de capitaux qui va là-dedans. Et c'est clé pour l'Europe, pour nous, en fait, de pouvoir nous libérer de l'achat du pétrole, de pouvoir nous libérer de l'achat du gaz et de trouver, nous, notre indépendance énergétique.
C'est clair. Pour revenir peut-être à Bootstrap, est-ce que toi, il y a un événement ou un fait auquel tu ne t'attendais pas du tout, si tu reviens en arrière, tu te dis, tiens, ça, j'aurais pas pu le prédire.
Ben, tu vois, c'est intéressant. Oui, il y en a l'année dernière, il y a un truc qui m'a extrêmement surprise, mais qui a extrêmement surpris le marché aussi. Je vais dire pourquoi je trouve que c'est lié à la sustainabilité, à la durabilité. C'est que, tu vois, c'est la disparition de Silicon Valley Bank. Tu as entendu parler de cette banque, en fait, qui prêtait aux sociétés technologiques. Et en fait, la Silicon Valley Bank, c'est le plus vieil acteur de mon secteur, de notre secteur. C'est le plus vieux prêteur à des boîtes technologiques. Bien sûr, ils étaient dans la Silicon Valley à l'époque, mais bon, ils étaient mondiaux. Ils n'étaient pas trop présents en France, en Belgique, mais surtout, tu vois, au Royaume-Uni, un peu dans les pays nordiques, etc. Et en fait, donc, c'est un peu comme cette grande sœur, tu vois. Ils avaient 175 milliards de prêts dans le secteur de la tech. Ils ont disparu en mars 2023. Et sincèrement, jamais, jamais j'aurais imaginé ça. Ils ont disparu à cause d'une ruée bancaire qui a été en fait causée par deux choses. C'est qu'il y a eu les taux d'intérêt qui ont augmenté. Et donc, ça a créé un mismatch sur leur balance sheet qui n'était pas énorme, mais qui n'a pas été pardonné par le marché. Ils étaient listés. Et la deuxième raison, c'est que ce sont les fonds de capitaux risqueurs aux États-Unis qui ont envoyé des tweets et qui ont dit à leur société dans leur portefeuille de retirer leurs fonds, en fait, des comptes de la Silicon Valley Bank. Donc, c'était vraiment une ruée bancaire. Et si tu veux, ça a mis deux jours pour faire disparaître un business qui existait, qui était au cœur de l'écosystème de la technologie depuis 40 ans. Et en fait, tu te dis, on parle de durabilité, mais en fait, on est une génération qui est dans l'instantanéité, qui est capable, en fait, comme ça, du jour au lendemain, de complètement changer son... qui est capable, en fait, de changer de bord comme ça, du jour au lendemain. Et je me suis posé la question, en fait, sur ce que ça veut dire sur nous, sur tous nos business, sur les boîtes qu'on soutient aujourd'hui, est-ce qu'on va les soutenir demain, est-ce que les générations, en fait, elles ne sont pas dans une optique qui est beaucoup plus du moment, quoi. Et c'était triste de voir ça. Alors nous, on a un peu pris avantage de ça parce qu'en fait, ils avaient une opération en Allemagne qui a été mise sur le marché. Nous, on l'a reprise, en fait. Donc, on a repris les sociétés auxquelles ils avaient prêté en Allemagne, et ça a fait de nous en fait le plus gros prêteur en technologie sur cette géographie.
Okay.
Mais bon, voilà, c'était un acteur avec lequel nous on collaborait, qu'on n'aurait pas voulu voir disparaître, et qui était extrêmement utile, bienveillant, gentil, savait ce qu'il faisait pour toutes les sociétés dans la techno.
C'est dingue. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui ?
Oh là là. Qu'est-ce qui m'obsède aujourd'hui ? Écoute, je me demande, est-ce que, tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, où on a un petit peu, le monde dans lequel moi j'investis, qui est le monde du venture capital, il s'est un petit peu remis en question, parce qu'ils ont en fait, il y a eu une revalorisation à la baisse extrême en fait de leur asset. Les sociétés ont du mal à lever, il y a moins d'argent, les fonds de capitaux, ils n'arrivent plus à lever aussi facilement, etc. Mais bon, ils sont quand même acteurs de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on va faire demain. Et en fait, je me demande si ces capitaux, ils vont aller vers des choses qui vont être positives pour notre société et continuer de nous aider de façon plutôt positive pour le climat ou pour l'impact, tu vois. Ou est-ce que en fait, on va aller vers une ruée vers l'intelligence artificielle, hein, ce qui est en train de se passer, avec une vision qui est encore court-termiste.
Ouais.
Et moi, c'est un peu ce choix. Je me demande à quel point, en fait, les équipes, elles vont faire le choix d'aller lever facilement des capitaux sur des thèmes comme l'intelligence artificielle, pour aller investir dans des boîtes qui vont finalement nous créer, finalement, peut-être juste le nouveau Facebook. Ou où est-ce que, en fait, on va aller vers des choses qui... voilà, d'aller financer des petites boîtes qui peuvent sortir des universités avec des vrais... techno qui existe aujourd'hui et qui pourrait aujourd'hui déjà nous amener vers la carbone neutralité, qui pourrait aussi nous emmener vers l'indépendance énergétique. Parce que la minute où il y a une indépendance énergétique, il n'y a plus besoin d'aller se battre en Ukraine, il n'y a plus besoin d'aller se battre pour le gaz, pour quasiment tous les conflits aujourd'hui. Sont liés en fait aux énergies fossiles. Donc voilà, où est-ce qu'on en est ? Alors, est-ce qu'on va continuer à pousser les énergies fossiles, les guerres, les conflits, et donc d'aller mettre en place les robots de surveillance, les drones de surveillance, les algorithmes pour faire la différence entre une vraie personne et le soldat qu'on a envie de tuer, etc., etc. Il y a un livre fascinant que je suis en train de lire qui s'appelle Chip War, la guerre des semi-conducteurs. C'est fascinant, en fait, on se rend compte qu'à travers le livre, que la géopolitique mondiale, elle est autour de la défense et des technologies qui permettent, en fait, d'aller automatiser la guerre, et qu'il y a énormément il y a beaucoup plus derrière les choix technologiques et les choix de financement qu'on fait que ce qu'on pense. Et est-ce que les fonds aujourd'hui vont aller du bon côté, ou est-ce qu'en fait ils vont continuer à refaire la même chose en utilisant l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas. Voilà, moi, c'est un peu ce qui m'obsède philosophiquement.
Je comprends. Mais alors, du coup, t'anticipes un petit peu ma prochaine question, un petit peu sur ta vision du monde. Selon toi, dans le secteur de la finance, justement, qu'est-ce qu'il faudrait drastiquement pour justement ne pas aller vers ça, mais d'aller vers une finance qui a un impact positif, qui intègre les critères ESG, et puis une qui ne finance pas les guerres, finalement?
Ouais, tu vois, c'est une réponse qui va être, tu vois, je pense que aller vers des choses où, en fait, tu vas essayer de faire quelque chose qui est positif, c'est, pour moi, ça vient du fait qu'il faut diversifier les équipes d'investissement. Parce qu'à la fin, en fait, c'est des humains qui vont prendre la décision d'aller orienter des capitaux de tel endroit à tel endroit. Et nous, à Bootstrap, alors, on est une équipe qui a été fondée par deux femmes. Donc, on est 100% women-owned, voilà. Mais on a une équipe d'investissement qui est exactement 50% femmes et hommes. Et c'est intéressant, c'est pas que, il faut pas qu'il y ait que des femmes, il faut pas qu'il y ait que des hommes, il faut qu'il y ait en fait cette espèce de diversification de l'équipe. L'autre chose aussi, c'est pour moi, il faut qu'il y ait une diversification qui est intergénérationnelle entre les gens. Donc, tu vois, d'avoir des gens, par exemple, qui sont plus jeunes, qui ont une vision différente de ce qu'est la planète, et des anciennes générations qui, bien sûr, ont grandi dans une société de consommation. Hein, c'est aussi bénéficier de l'expérience de ceux qui ont été là depuis plus longtemps, mais aussi d'avoir le challenge de gens qui sont un peu plus jeunes, d'avoir une mixité qui est aussi sociale, c'est-à-dire de ne pas seulement penser pareil et d'avoir des gens qui viennent des mêmes écoles, mais d'avoir en fait une espèce de mixité sociale. Donc tu vois, à Bootstrap, on est 10 personnes, on a 9 nationalités, on va de 25 à 55 ans, on a cette équipe qui est 50-50 du point de vue de l'investissement. Rob, par exemple, qui est notre comptable interne, en fait, à un moment, il gérait un pub, il a un côté très punk anglais, tu vois. Et ensuite, on a Humphrey, qui est notre partenaire, mais qui a fait Eton avec James Cameron, etc. Et donc, en fait, il y a ce côté, il y a vraiment ces grands écarts, en fait, qui est hyper intéressant, parce qu'en fait, toutes les choses bien qu'on a fait, c'était grâce, en fait, à notre notre diversité intellectuelle. Mais et socio-économique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça qu'on va avoir des gens qui vont penser au futur, qui vont penser à ne pas refaire les erreurs du passé, qui vont penser à inclure, tu vois, par exemple, des entrepreneurs qui ne vont pas être des entrepreneurs tous pareils, peut-être d'avoir plus de femmes, etc. Et voilà. Et en fait, je pense que ça, voilà, c'est ça qu'il faudrait voir plus... en finance, mais pas juste pour le marketing, de vraiment le mettre en place dans les équipes d'investissement.
Et si je te donnais une baguette magique, tu en ferais quoi ?
Alors, allez, je ferais disparaître l'accès aux énergies fossiles. Tu vois, par exemple. Et je pense que ça donnerait lieu à un monde beaucoup, beaucoup plus simple à tous les niveaux.
Ça ferait secouer le cocotier, hein, si tu les enlèves d'un coup. Mais je pense qu'on aurait de quoi se réinventer, du coup.
On ne pourrait plus utiliser les voitures. On serait obligé de se réinventer, voilà.
Alors, je vais te poser deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast. On en a parlé un tout petit peu en off avant de démarrer. Ah non, le livre, c'est après. D'abord, j'ai une autre question. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour rendre leur business plus durable et alors peut-être un conseil en particulier avec ta casquette d'investisseur, peut-être ?
En fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut hyper bien comprendre sa communauté. Voilà, la communauté dans laquelle ils agissent, et en fait de bien réfléchir comment l'aider elle au mieux, en fait, de manière éthique, de manière bienveillante. Ça veut pas dire ne pas faire d'argent, hein. Au contraire, ça veut dire en fait bien comprendre cette communauté et bien comprendre comment l'aider de façon presque locale. Et essayer de l'aider justement le plus possible. Alors pour nous, tu vois, ça veut dire trouver des entrepreneurs et surtout des ventures capital risqueurs qui en fait ont des sociétés qui ont besoin de financement pour financer leur croissance. Et essayer de le faire de manière à ce que les sociétés elles survivent, de manière à faire en sorte qu'il y ait de la confiance entre nous et eux, voilà. Et en fait, moi, de mon point de vue investisseur, les sociétés qui fleurissent le plus, ce sont des sociétés, tu vois, j'en ai une, elle fait des virements internationaux comme Western Union, mais à des prix cassés pour les migrants, alors pour les gens par exemple qui vont travailler, voilà, qui sont polonais, qui travaillent en Angleterre, qui envoient un vers la Pologne, ou par exemple qui sont ukrainiens qui vivent en Pologne et qui envoient vers l'Ukraine. Donc eux, ils font beaucoup de choses sur l'Europe de l'Est. Et en fait, c'est une société qui est magnifique parce qu'en fait, les gens qui utilisent ce service-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils se font sucrer par des sociétés comme Western Union sur les filles, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas en fait la... Et en fait, du coup, c'est une société qui n'a fait que grandir. On l'a soutenue plusieurs fois. Quand ils sont revenus vers nous en nous disant voilà, cette fois-ci on a besoin d'un prêt plus gros, etc., on a donné le prêt plus gros parce que en fait elle continue de faire du bien, elle continue, et c'est une société qui était le premier point d'entrée pour les capitaux en Ukraine pendant la guerre, parce qu'en fait il n'y avait pas moyen en fait de faire venir des capitaux, donc pour les gens qui envoyaient de l'argent à leur famille, c'était pas possible de le faire, mis à part eux et un autre service. Okay. Et donc voilà. Et donc moi je pense que c'est aller trouver en fait des sociétés qui comme ça vont bénéficier à une communauté qui est spécifique, et comment le faire au mieux. Et ça veut pas dire pas faire d'argent. C'est une société qui fait énorme, enfin qui fait bien l'argent, qui fait vraiment. Mais il n'y a pas besoin d'être en anglais greedy. Voilà.
Ok. Et alors, deuxième question, est-ce que tu aurais un livre ou une conférence ou un podcast, que sais-je, que tu as lu récemment, ou pas récemment, mais en tout cas qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ta réflexion?
Ouais, alors c'est vrai, on en a un peu parlé en off. Je te disais, c'est un livre qui s'appelle Small Giants, et le subtitle, c'est Companies that choose to be great instead of big.
Ouais.
Et ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Beau Burlingham. On en parlait parce que ce que je te disais, c'est que toi, ta communauté, c'est aussi tous ces gens qui t'écoutent, qu'en faisant ces podcasts, quand on écoute certains des podcasts que tu as fait, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont envie de voir changer les choses, alors avec des thèmes complètement différents, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que Small Giant, c'est l'idée de construire une société qui va aider sa communauté localement, et qui va à un moment se dire je ne vais pas pousser la croissance au-delà de l'impact positif que je peux avoir. Alors, il donne des exemples hyper intéressants dans le livre, par exemple de chaînes de restaurants qui ont une qualité incroyable, qui rendent heureux les gens qui viennent manger, où l'entrepreneur il fait quand même pas mal d'argent, et il y a la possibilité d'aller prendre de l'argent pour monter une chaîne à travers les États-Unis, et ils le font pas. Et en fait, l'idée du Small Giant, c'est vraiment cette idée d'être une société qui est florissante, qui a du succès à une échelle humaine.
C'est hyper intéressant. Je ne l'ai pas lu, je l'ai là sous les yeux. Je pense qu'il va finir dans mon panier sur Momox. Mais oui, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. On peut avoir un énorme impact sans forcément être un mastodonte non plus. Ok. Merci Stéphanie. Ah oui, attends, avant de clôturer, Stéphanie. Comment peut-on suivre Bootstrap Europe? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut peut-être te contacter ou alors rentrer en contact avec Bootstrap si est-ce que tu aurais
Ah oui, alors Bootstrap, oui, alors on a un site internet, hein, bootstrapeurope.com, on est alors sur les médias sociaux pas super actifs, mais on est un peu sur LinkedIn, donc on a notre page LinkedIn. Et la meilleure façon de nous contacter, c'est de demander, alors pour les sociétés qui, enfin pour nous, on finance surtout les sociétés qui sont innovantes, c'est-à-dire ce sont des startups ou des scale-ups qui ont des brevets, qui font quelque chose qui est vraiment différent et qui ont reçu de l'argent de venture capitalistes. On ne peut pas financer s'il n'y a pas de venture capitaux derrière. Donc la meilleure façon en fait d'attirer notre attention, c'est de demander à vos actionnaires en fait de faire une introduction, de nous faire une introduction. On connaît quand même beaucoup des fonds de venture capitaux et voilà, c'est la façon classique en fait de nous contacter.
Ok, bah super. Stéphanie, merci beaucoup. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 10 heures. On aura peut-être l'occasion, si on refait un épisode dans quelques années peut-être, ça pourrait être sympa de voir vers où le marché, vers où l'argent est allé dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. J'espère que ça t'a plu aussi.
Ah oui, c'était super. Merci voilà. Stéphanie. Les deux Stéphanie.
Les deux Stéphanie au micro. Merci Stéphanie et à bientôt.
À bientôt.
Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto Circle. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si c'est sur Apple Podcast, prenez 2 millisecondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast. Ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis surtout de faire connaître davantage le podcast. Alors aussi, si vous allez sur le site de smarttocircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smarttocircle. Et puis pour finir, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smarttocircle se fera plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.